le Seigneur lui-même. Et je voudrais ce matin prolonger d'une certaine manière le sillon qu'il a tracé en me saisissant des premiers versets du chapitre 1er du livre de Josué. Alors c'est formidable, on m'a donné un instrument en me disant que si je pointe vers vous, quelque chose se passe derrière moi. C'est le cas? Vous confirmez? Bien. Je voudrais nous parler ce matin à travers le texte de Josué. Et finalement, je résumerai le propos que j'ai à cœur à travers cette phrase simple, un appel à la confiance et au courage. Je vous propose donc de lire le texte biblique, Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Nous lisons ici dans la version Nouvelle Français Courant. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Noun et lieutenant de Moïse, « Puisque mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, traverse ce Jourdain avec tout ce peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne te résistera. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort pour observer l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a transmis. Ne t'en écarte jamais. Et ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ou de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur, encore ce matin, pour répondre à l'appel que tu veux nous adresser à travers ce texte de Josué. Un appel à la foi, à la confiance, un appel au courage d'être dans ce monde tumultueux. Que ton Esprit Saint vienne nous donner ta parole, Seigneur, au plus profond des réalités de nos vies et de notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais tout d'abord nous rappeler le contexte duquel émerge notre texte. Le verset 1 nous fournit d'emblée l'arrière-plan historique de ce contexte. C'est aussi le contexte d'ailleurs général du livre de Josué. Nous nous situons après la mort d'une figure importante de l'histoire biblique. Moïse, qui a ce titre « serviteur de l'Éternel ». Parvenu à l'âge respectable de 120 ans, Moïse ne traversera pas ce Jourdain. Et pour lui succéder et conduire le peuple de Dieu dans une nouvelle étape décisive, importante, à savoir la conquête de la terre promise, le Seigneur a appelé Josué, fils de Noun. Josué n'est pas un inconnu à ce stade de notre lecture de la parole de Dieu. Nous avons dû le rencontrer déjà à plusieurs reprises dans l'Écriture. Il est l'un des proches collaborateurs, on dirait même des disciples de Moïse. C'est lui qui avait combattu dans la plaine pendant, il avait combattu Amalek dans la plaine pendant que Moïse était sur la colline, dans Exode chapitre 17, versets 9 à 10, en prière. Il a accompagné Moïse dans l'épisode du Sinaï, lorsque Moïse a reçu les 10 paroles. Il se tenait aux côtés de Moïse lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour écouter Dieu. Josué a bénéficié d'une proximité avec Moïse qui était assez remarquable. Il nous est présenté d'ailleurs comme un homme inspiré, c'est-à-dire un homme animé, porté, dirigé par l'Esprit de Dieu. Et au chapitre 34 du Deutéronome, c'est-à-dire le dernier chapitre qui clôt le Pentateuque, alors qu'on vient de nous parler de la fin de vie de Moïse, on nous dit que Josué était rempli d'un esprit de sagesse, l'esprit de Dieu qui a été déposé sur Josué est un esprit de sagesse. Le Nouveau Testament nous rappellera que nous aussi, nous avons reçu un esprit de sagesse, un esprit d'amour, un esprit de force et non un esprit de crainte. Pourquoi Dieu a-t-il donné à Josué un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'audace? Eh bien, c'est parce que Josué allait être l'homme qui allait mener la prochaine étape décisive, c'est-à-dire la conquête de Canaan, qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions aux lecteurs modernes. Mais là n'est pas notre sujet. Un jour, peut-être, on traitera spécifiquement de la question de l'interdit dans la Bible et de la question de la violence des récits bibliques. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mon sujet n'est pas non plus de revenir sur les contours précis de ce territoire qui est donné à Josué. Mon sujet, c'est véritablement de lire et de comprendre que nous sommes en présence d'un texte qui met d'abord en avant la notion de confiance, la notion de foi et la notion de courage. Le chapitre 31 du Deutéronome, qui a introduit le discours des adieux de Moïse et l'investiture de Josué, son successeur, nous rappelle plusieurs éléments du discours de Moïse que nous retrouverons dans la méditation de ce passage de Josué, chapitre 1er. Dans ce contexte, Josué est encore, d'une certaine façon, stoppé, paralysé par le départ de Moïse. Partagé 40 années aux côtés du grand Moïse, le législateur, le prophète, l'intercesseur, le libérateur, l'homme de Dieu, ça devait être quelque chose pour Josué. Et se retrouver maintenant, suite au décès de Moïse, devant le poids de la responsabilité, nous imaginons qu'il doit être paniqué, assailli par toutes sortes de questionnements. Serais-je à la hauteur de la confiance qui est placée en moi? Aurais-je les ressources de conduire véritablement cette étape? Certes, il était aguerri au combat, à la guerre, mais il savait également que le peuple qu'il avait à conduire et que Moïse avait conduit est un peuple à la nuque raide, est un peuple difficile. Vous voulez savoir ce qu'il y a vraiment dans ma tête? Je pense à une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Je me dis que je me risque peut-être à la rappeler. Parce que notre président un jour a dit que nous étions un peuple réfractaire. Alors je ne vais pas reprendre cette parole parce que je sais combien elle nous a bousculés et blessés. Mais quand même, sachons que pour ceux qui ne sont pas nés en France et qui sont arrivés après, ils ont parfois ce regard des Français comme des gens réfractaires, un peu râleurs, un peu... Hein, voilà. Je m'arrêterai là parce que sinon, vous allez me lapider. Josué savait que ça n'allait pas être facile, mais Josué était encore là, dans un temps de deuil. La fin du chapitre 34 nous dit que Moïse est mort et le peuple a pris 30 jours. C'est un deuil national. c'est un temps important que le peuple avait à prendre pour honorer la mémoire de Moïse. Aux grands hommes, la nation reconnaissante. Aux grandes femmes aussi, la nation reconnaissante. Ils étaient stoppés par cet événement douloureux. La mort a ceci de terrible, que non seulement elle vous prive d'un être cher, mais littéralement, elle a cette force de vous terrasser, de vous mettre dans la sur la poussière. Aussi, c'est dans ce contexte de deuil, c'est dans ce contexte de fragilité qui traverse tout le peuple, et Josué plus que tout le monde encore, que la première exhortation qui lui est adressée doit être entendue. Lève-toi. Lève-toi. En hébreu, c'est le verbe koum qui sort, qui claque, comme le son de ce pistolet qui, paf, la course doit repartir. Koum, lève-toi. Debout. Debout. Le projet que le Seigneur a pour nous, c'est de ne pas laisser la mort, c'est de ne pas laisser l'épreuve de la vie, les épreuves de la vie entraver notre mission, notre vocation. Elle t'a arrêté un temps, cette mort. Elle t'a stoppé, cette épreuve t'a ébranlé, t'a renversé. Mais le Seigneur sait tes épreuves. En ce début d'année, il vient, il te dit, je sais tes craintes, je sais ta souffrance, je sais tes peurs, je sais tes larmes, je sais à quel point cette épreuve t'a ébranlé, t'a mise à terre. Mais il y a un temps, comme dit Ecclésiaste, pour pleurer. Et il y a un temps pour dire à nouveau oui à la vie. Il y a un temps pour le deuil. Et il y a un temps pour choisir à nouveau la vie. C'est d'ailleurs comme ça que Deutéronome 34 finit. Choisis la vie pour que tu vives. Il ne s'agit pas de tourner la page comme si rien ne s'était passé. Mais il s'agit de choisir de poursuivre la vie et de la poursuivre sur la parole de Dieu. Koum, lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur vient dire que ce n'est pas l'immobilisme de la mort qui doit avoir le dernier mot sur mon destin. La mort te dit stop. La mort te fige. La mort te paralyse. Mais la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu te lèves. Et Dieu nous donne dans sa grâce une parole qui nous relève. Une parole qui nous soulève, une parole qui nous surélève, et plus que tout, une parole qui nous révèle la puissance de sa présence, la puissance de son amour, la puissance de sa vie, cette vie qu'il veut nous communiquer à nous aussi aujourd'hui. Josué, je sais, tu as perdu Moïse, ton mentor, tu as perdu quelqu'un d'important, tu t'es arrêté 30 jours, ce n'est pas assez. Mais lève-toi, koum, lève-toi. Et cette parole m'a entraîné à travers Jésus, en préparant ce message, je dis, mais ça me parle. Et ça vous parle aussi certainement. Quand Jésus, dans son ministère, est appelé, parce que la fille de Jaïros, cet officier, Jaïrus ou Jaïr, suivant les traductions, est décédé et on vient le chercher et la famille est meurtrie, c'est le deuil. Et Jésus entre dans cette maison, il dit « Talita, koum !» Petite fille, ma fille, lève-toi. Auparavant, il passait quelque part dans son ministère et on pleurait avec un cortège funéraire qui passait là, on pleurait un jeune enfant, un jeune homme. Fils unique d'une veuve à Naïn. Il s'approche et il voit cette veuve meurtrie. Il lui dit, ne pleure plus, femme. Il s'arrive, il dit à ce jeune homme, koum, lève-toi. Et dans un autre évangile, Il nous est raconté l'histoire de ce paralytique qui est dans une sorte de mort sociale, 37 ans à côté de cette piscine de Bethesda. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je suis en galère, sur mon grabat, depuis 37 ans, couché, immobile ici, comme mort, dans la mort sociale, au milieu des foules, de pèlerins, au milieu de gens, chaque fois que l'eau s'agite, c'était une croyance qui nous dépasse un peu aujourd'hui à tout comprendre, mais il y a toujours quelqu'un qui plonge avant moi. Et toi, pourquoi tu n'as pas plongé? Parce que je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'y amener. Et Jésus dit quoi? Lève-toi, prends ton grabat et marche. Je crois que nous servons le Jésus de lève-toi. Nous servons un Seigneur qui nous dit, tu peux te lever. Tu peux te relever. Ce n'est pas facile, mais tu peux mettre un pas devant l'autre, un jour à la fois. Un jour à la fois, mon Dieu. Je le dédie à Nadia, c'est elle qui m'a appris ce chant, mon épouse. Elle chante souvent, un jour à la fois, mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Un jour à la fois. Oui, nous servons ce Jésus qui a pour nous une parole d'espérance, une parole qui nous lève. Et toutes ces résurrections, et tous ces lève-toi, pour nous les endeuillés de la vie, c'est des prémices de notre espérance qu'un jour Dieu ramènera par Jésus-Christ à la mort, de la mort, tous nos chers êtres qui nous ont précédés. Mais en attendant ce jour, nous ne pouvons pas nous permettre de ne plus répondre présent à la vie. Il nous dit, lève-toi. Et ce matin, il te dit, lève-toi. Mais on peut se lever et rester sur place. Alors, il nous dit, non seulement lève-toi, c'est déjà, croyez-moi, difficile, douloureux. Se lever, ce n'est pas rien. Mais, à nouveau, oser marcher. Demandez aux personnes, en particulier les personnes d'un certain âge, qui ont fait une chute. Qu'est-ce qui était le plus dur? Ils ne vont pas vous dire c'est la chute. On vous dit c'est à nouveau avoir confiance pour marcher. Parce que vous êtes dans votre corps comme imprégné d'une mémoire qui vous fait peur de marcher à nouveau. Parce que vous comprenez que vous pouvez encore tomber. Mais il dit lève-toi. Et traverse, deuxième impératif, traverse ce Jourdain. Josué là a dû se dire, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Moïse lui-même n'a pas traversé ce Jourdain. Ça ne vous a pas échappé. Le grand Moïse n'a pas traversé ce Jourdain. Il n'a pas traversé ce Jourdain, pas parce qu'il ne voulait pas ou ne désirait pas. Moïse désirait traverser le Jourdain. Toute la marche de Moïse, il a voulu traverser le Jourdain et mettre ses pieds dans le pays promis. Mais il a été usé. Usé tout au long de ses 40 ans par un peuple difficile, par un peuple rebelle parfois, par sa couardise. Et il y a le fameux épisode des eaux de Meriba à Kadesh Barnea, dans la traversée du désert de Chine. Pas de Chine, hein, Sine. Où le peuple demande de l'eau. Et Moïse n'en peut plus. Et il va réunir les responsables du peuple, lui, Aaron et autres. Et puis il va avoir cette phrase malheureuse, comme il peut nous en arriver. Est-ce que vous croyez que c'est de ce caillou, c'est de ce rocher que Dieu va vous donner de l'eau? Et il frappe, pas une fois, mais deux fois ce rocher. Et Dieu va lui reprocher de n'avoir pas persévéré à ce moment-là dans la foi. L'appel à la confiance, l'appel à la foi. Cet épisode va coûter à Moïse son entrée, sa traversée du Jourdain. Mes amis, l'épreuve est redoutable et il y a des Jourdains que nous ne traverserons pas. Il y a des Jourdains qui vont peut-être nous stopper. J'aime beaucoup ce que dit un théologien protestant qui s'appelle Antoine Nuis. Dans un petit commentaire de ce texte, il dit « Moïse a été un géant. » Mais de même que pour tous les êtres humains, sa mission n'a pas été couronnée de succès à 100%. Soyons lucides. Nous les pasteurs, on le sait en général. N'est-ce pas mon frère Norbert ? On le sait. C'est un ministère difficile, exigeant, difficile et parfois très ingrat, très injuste. Moïse n'a pas échappé à la règle. Et Josué a dû avoir ça dans la tête, dans la mémoire. Antoine Nuis poursuit. Moïse est mort à la veille d'entrer en terre promise. Il a eu beaucoup de mal à accepter cet inachèvement. Mais nul n'est immortel. Chaque être est limité. Chacun rencontre un Jourdain qu'il ne franchira jamais. En prendre conscience. Je pense que c'est ça le plus important dans cette citation que je voudrais partager avec vous. En prendre conscience nous permet d'être aussi attentifs au déroulement qu'à l'achèvement de notre mission. Dans cette société qui veut constamment nous vendre l'illusion de l'immortalité, l'illusion de l'homme augmenté, l'illusion qu'avec l'intelligence artificielle, nous maîtrisons toujours plus, l'illusion finalement de la toute-puissance. Jacques Ellul nous mettait déjà en garde contre cette illusion d'une société de l'hypertechnique qui finalement se fait au détriment de l'humain. Bienheureux, bienheureuse, celui, celle qui accueille simplement sa finitude, sa limite, sa vulnérabilité, sa faiblesse. Parce qu'alors, on ne se repose plus sur qui nous sommes, mais sur qui fait route avec nous. Sur qui nous dit « lève-toi ». Sur qui nous tient la main pour nous dire « nous allons traverser, tu vas traverser ce moment difficile, cette épreuve ». Ce défi. Oui, nos limites, nous devons les accueillir. Nos limites, nous devons les respecter. Mais nos limites ne sont pas les limites de Dieu. Amen. Moi, j'ai toujours du mal quand on me dit « dépasse tes limites ». J'ai l'impression qu'on veut me mettre en danger. Je suis plus à l'aise. On dit « non, j'ai mes limites. » Et Dieu sait mes limites. Et il ne me pousse pas au-delà de mes derniers retranchements. Je crois que ça, c'est sain et ça, c'est biblique. Mais par contre, là où Satan veut parfois nous avoir, c'est de nous faire croire que nos limites à nous sont les limites de Dieu. Il ne s'agit donc pas tant de dépasser mes limites que de reconnaître, Seigneur, j'ai atteint mes limites, mais je sais que toi, tu n'es pas limité. Ça me semble plus sain, plus prudent. Alors nos limites ne sont pas les limites de Dieu. Josué ne pouvait pas avoir la prétention d'être plus grand que Moïse. Et dans nos églises, avec notre humanité, où les ministères se succèdent, et malheureusement, on peut parfois être amené à comparer. Nous n'échappons pas non plus. On compare le pasteur précédent au pasteur suivant, le responsable d'activité d'aujourd'hui à celui d'il y a 15 ans, etc., etc. C'est humain, ça arrive. Mais à chaque fois, ça a failli coûter la peau à quelqu'un. David n'avait rien demandé. C'était juste un petit berger de rien du tout. C'est arrivé dans les oreilles de Saül qu'il était formidable. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Et il a fini par débarrasser le peuple de ce géant, de ce colosse Goliath, avec une petite fronde et ses cailloux. Mais avant, Saül lui avait donné son armure, ses vêtements. Puis, il a dit non, non, non. Ce n'est pas à moi ça. Moi, je ne suis pas Saül. Moi, je ne suis que David. Je ne sais pas manipuler tout ça. Et puis moi, je ne combats pas Goliath avec ça. Lui, il s'avance avec sa force, avec sa prétention, avec son arrogance. Mais nous, nous le vaincrons au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez ce qui a fait la différence? Au nom de l'Éternel des armées. Refuse. Puis, quand il a renversé Goliath avec cette fronde et ce petit caillou, les dames sont sorties. Oui. Pardon, je ne sais pas si c'est comme ça. Et chez moi, au Cameroun, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, on ne lit jamais le texte biblique sans sa culture. Hein. Donc je viens de vous faire une scène d'acclamation un peu à la camerounaise, et ça dépend en plus de la région. Alors, Saül a tué 1000, mais David, 10 000. Et puis il s'est dit, mais si cette petite musique commence à se répandre, c'est pas bien. C'est comme quand le premier ministre devient trop populaire. Il y a quelqu'un là qui dit, mais mince alors, s'il reste populaire comme ça, c'est pas très très bien. Ou un ministre d'intérieur très célèbre, il a, oh, attention, il a des vues sur mon poste. C'est humain, c'est vieux comme le monde. Et qu'est-ce que Saül va faire? Ben, il va décider de faire la misère à David. Donc chaque fois que je compare mes responsables, mes pasteurs, chaque fois que j'excite et je tire ces petites ficelles-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de provoquer quelque chose qui est dans chacun de nous, dans notre humanité. Il n'y a personne qui aime quand on le rabaisse. Il n'y a personne qui aime quand il prend dans la gueule que l'autre est meilleur. Non. Quand je fais ça, je suis en train de nourrir quelque chose en l'autre qui va aboutir à la violence. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc Josué doit avoir tout ça en tête. Mais il doit se lever et il doit traverser ce Jourdain. Je ne sais pas quel Jourdain tu dois traverser en cette année. Peut-être même aujourd'hui, peut-être même en venant au culte. Est-ce dans ton couple? Est-ce le souci d'un enfant? Est-ce professionnel? Que sais-je? Mais je puis t'affirmer, sur la base de cette parole de Dieu, que tes limites ne sont pas les limites de Dieu. Que le Seigneur t'appelle à avancer un pas après l'autre en lui faisant confiance. C'est le troisième point. Cette confiance n'est rendue possible que parce que le Seigneur dit « Je serai avec toi ». Et il accumule d'ailleurs plusieurs verbes de l'attachement. « Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Il y a comme une graduation dans la déclaration d'alliance et d'appartenance. Je peux être avec toi et puis t'abandonner après. Je peux être avec toi et puis te délaisser après. Ça, c'est moi. Mais le Seigneur dit, je ne te délaisserai pas. Et pour qu'il s'assure que nous ayons bien compris, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Voilà l'abandon, quelque chose qu'on a peut-être vécu, quelque chose de douloureux, quelque chose de déstructurant. Les sciences psychologiques et autres nous rendent attentifs aujourd'hui un peu plus à cette question, à l'importance d'un bon attachement, d'une bonne sécurité dès le plus jeune âge, même dès le ventre maternel, et aux souffrances de l'abandon ou des angoisses de l'abandon. Et Dieu vient comme un père, comme une mère à Josué et à un peuple traumatisé par la mort du leader, par la mort de Moïse et de tout ce qu'il a pu représenter pour eux. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est parce que nous avons l'assurance de son amour inconditionnel et surtout de sa présence au cœur de nos vies. J'aime beaucoup ce chant. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Oui, c'est cette parole que le Seigneur nous redit ce matin. Et en le disant à Josué, il reprend les mêmes paroles qu'il a données à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et ces mêmes paroles qu'il avait également dites à Moïse. Jacob, un jour, a ce rêve, vous savez, avec l'échelle et autres. Il est dans cette torpeur terrible, ce qu'il vit dans cette nuit-là. Une nuit terrible. Il est angoissé, il ne peut plus faire marche arrière. Il y a un guet devant à traverser et puis il sait qu'il doit faire face à Ésaü. Et dans cette torpeur, le Seigneur vient à nouveau lui redire la parole qu'il a dite à ses pères. voix. Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette terre car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit. Et il y a ce psaume qui dit, comme un enfant sevré sur la poitrine de sa mère. Quand je suis arrivé, j'ai vu un papa qui avait son bébé sevré sur son sein, bien soutenu. J'ai dit, c'est ça, c'est ça. Je vois souvent aussi les mamans avec leur bébé ici, c'est ça. Il est calme, je suis tranquille, je suis en sécurité. C'est ce que le Seigneur vient nous dire. Dans des temps de transition, dans des temps de changement, dans des temps où nous devons faire face aux défis. Allez voir, je pense, une Netflix aussi, un film qui s'appelle Facing the Giants. Ouais, il nous dit, tu peux faire face à ces géants. Tu peux. Suis ma force. Suis ma force. C'est la même promesse que le Christ a faite à ses disciples avant de quitter cette terre physiquement. En les envoyant dans le monde, un monde difficile. Un monde qu'il décrit comme habité de loups. Et eux, ils sont des agneaux. Et vous savez, le repas préféré d'un loup, c'est un agneau. Et depuis une semaine, ma fille, la quatrième, a un seul livre dans sa bibliothèque qu'elle aime qu'on lui lise tous les jours. Ce n'est pas le loup et l'agneau. Hein? C'est la brebis qui ne voulait pas finir comme un mouton. Et dans cette histoire, chaque nuit, un loup se présente dans la prairie et il en bouffe un. Chaque nuit, ça se repasse, ça se repasse, ça se repasse. Jusqu'au moment où ils vont développer une stratégie pour faire fuir le loup et aller le perdre dans un gouffre. Dans un monde dangereux, dans un monde où nous risquons d'être les agneaux qu'on voudrait manger, le Seigneur nous donne encore là sa parole. Je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et c'est sur la base de cette parole qui dit, allez, go, allez. S'il n'y a pas cette parole, le réflexe des disciples, c'est de revenir dans l'entre-soi, c'est de se barricader dans la chambre haute, c'est de vivre des expériences spirituelles entre eux. On est fort le dimanche matin à parler de nos expériences spirituelles. Mais il faut sortir de nos murs. Il faut sortir de l'entre-soi et nous pouvons le faire. Pourquoi ? Mais parce que le Seigneur dit, je suis avec vous. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Nous pouvons dire qui nous sommes. Nous pouvons dire en qui nous avons placé notre confiance. Fortifie-toi. Je ne suis pas un bon viseur. Et prends courage. À trois reprises, en l'espace de quelques versets, il lui rappelle ça. Fortifie-toi et prends courage. La première fois, c'est au verset 6. Sois courageux et fort. Et ce sont les mêmes paroles que Moïse avait adressées à Josué, seul à seul, qu'il avait d'abord donné d'ailleurs à tout le peuple. Quand on lit Deutéronome chapitre 31, versets 6 à 8, on lit quoi ? Soyez courageux et fort. Ne craignez pas, ne tremblez pas devant elles, les nations. Car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Puis il appela Josué. Donc ce n'est pas juste une parole pour Josué, c'est pour nous tous aussi. Puis il appela Josué et lui dit, devant tout Israël, sois fort et courageux, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré de leur donner. Vous avez remarqué que le courage ici n'est pas le déni de la peur. Le courage ici n'est pas le déni de nos difficultés. C'est le courage de la lucidité. La lucidité qui envisage les situations difficiles, mais qui les envisage avec le regard de la foi et de la confiance. Le courage ici consiste à accepter de se lever un jour, peut-être dès maintenant, à accepter de mettre le premier pas et ensuite le suivant un jour à la fois. Voilà le courage. Il s'agit d'affronter ton Jourdain à toi aujourd'hui. Nelson Mandela, je pense qu'il est connu ici. figure emblématique de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, un homme qui a combattu pour l'égalité citoyenne des hommes, des noirs, des blancs, un homme qui a apporté quelque chose à notre monde, à notre humanité. Je me souviens, j'avais à peine 10 ans quand il a été libéré de prison. C'était une fête au Cameroun, dans tous les pays en Afrique. Et puis quand je suis venu en Europe, j'ai rencontré aussi beaucoup d'Européens qui suivaient le combat de Nelson Mandela et qui m'ont dit « on a fêté ce jour-là ». C'était extraordinaire. Et voilà un homme, Madiba, qui a appris et qui a dit quelque chose. Il a appris des épreuves. 27 ans de prison, ce n'est pas rien. Il dit « j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Amen. Cet homme-là a dit ça. Et ce matin, peut-être aussi, tu peux dire, avant de sortir de ce moment de culte, « Seigneur, je vois mes peurs. Seigneur, voici mes défis. Seigneur, voici mon Jourdain. Seigneur, voici mes difficultés. J'ai la lucidité de les voir. Je ne fais pas l'autruche. Je ne suis pas dans le déni de cette réalité. Mais Seigneur, avec toi, tu as promis, sur ta parole, je m'avance ce matin. Sûr que tu ne m'abandonneras pas. Le Seigneur ne dit pas que tu n'auras pas l'envie de lâcher sa main. Norbert nous l'avait illustré très bien une fois ici. Si tu tiens la main comme ça lâchement, oui, tu peux essayer de la lâcher. Il peut m'arriver de vouloir lâcher la main du Seigneur. Mais lui, il nous tient là. Souvenez, notre frère nous l'avait montré ici. Il nous tient là. Et lui, c'est lui qui a promis qu'il ne nous lâchera pas. Il sait que parfois on a envie de baisser les bras, de jeter l'éponge. Mais lui nous tient. Il tient parole. Et si nous gardons la parole, alors nous sommes ceinturés, tenus par elle. C'est par là que j'aimerais finir. Observer et méditer la parole. Josué a marché avec le grand Moïse, je l'ai dit, pendant 40 ans. Il a donc bénéficié d'une des meilleures écoles théologiques au monde, d'un meilleur professeur. Mes professeurs à moi n'ont pas vu la mer Rouge s'ouvrir en eux. Au contraire, ils m'ont enseigné une lecture parfois très, très critique. Cette affaire du Jourdain ou des eaux qui sont coupées ou de la mer des gens coupés ou du jour le plus long, etc. Ils n'ont pas la connaissance expérimentale de tout ça. Josué a pu l'avoir auprès de Moïse. Et pourtant, la recommandation qui lui est donnée, ce n'est aucunement de construire sa foi sur l'expérience. L'expérience n'est pas normative. Et ça nous guette, nous évangéliques, qui valorisons l'expérience individuelle, l'expérience collective, de faire de nos expériences individuelles des choses normatives, des lois. Si ça s'est passé comme ça avec moi, ça doit se passer comme ça pour tous les chrétiens. Si Dieu m'a donné cette grâce-ci, eh bien, tu dois l'avoir. Si tu n'es là pas, c'est que tu n'es pas encore à mon niveau. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Une classe que tu as sautée, alors tu vas redoubler. Ça ne marche pas comme ça. L'expérience n'est pas normative. Je me fonde sur ce passage, parce que le texte ne dit pas, ne t'écarte pas de l'exemple de Moïse. Le texte ne dit pas, reproduis ce que Moïse a fait. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que ce livre de la loi, ce n'était pas toute la Bible encore. On a du mal à savoir combien de fragments il avait, mais en tout cas, peut-être le Pentateuque était déjà fixé. Mais que ce livre que t'a confié Moïse, ce dépôt, voilà le bon dépôt, voilà le canon, voilà la règle, voilà le cadre, voilà l'autorité. Amen. Francis Schaeffer a commenté ce passage. Je vais faire plaisir peut-être à Elisabeth ce matin. Tu es où? Oh, tu m'as parlé Francis Schaeffer un jour. Alors, j'ai trouvé un commentaire Francis Schaeffer sur ce passage. Il dit, le Seigneur a mis l'accent sur trois choses. Premièrement, la loi ne devait pas s'écarter de la bouche de Josué. Il devait la proclamer. Est-ce que je proclame l'Écriture? Est-ce que nous proclamons la parole de Dieu? Pas nos souvenirs de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il devait la proclamer. Deuxièmement, il devait la méditer jour et nuit, la lire, la ruminer, la mâchouiller. Et Francis Schaeffer dit, méditer est une activité cognitive qui a lieu dans le domaine de la raison. Il faut faire marcher ça. La loi de Dieu n'est pas quelque chose qui doit être reproduit mécaniquement ou sans penser à son contenu. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ce que Boris Cyrulnik appelle la récitation. Notre société aime la récitation, le prêt-à-penser, les expériences qu'on duplique, qu'on clone. Mais Dieu n'aime pas la récitation. Dieu aime le dialogue. Dieu aime le dialogue. Il aime le dialogue, il aime la conversation. C'est différent. Troisièmement, Josué devait appliquer les commandements à son temps et aussi, Constance, de son époque. En résumé, trois choses. Parle-en, pense-y et agis d'après elle. La terre promise était un don de Dieu à Israël. Cela ne fait aucune contestation Bible à main. Mais saisir cette promesse engageait le peuple et ses responsables à marcher dans le cadre de l'alliance établie avec Dieu. La réussite de cette entreprise dépendait totalement de Dieu, mais Dieu travaille avec l'obéissance des hommes et des femmes. Alors, plus qu'un appel à la bataille, ce texte, c'est un appel à la confiance et au courage qui nous est adressé à nous aussi aujourd'hui. Je voudrais conclure. Courage, mon frère, ma sœur. Le courage de te lever ce matin, c'est possible. Le courage de traverser ton Jourdain, c'est possible avec Dieu. Le courage de garder la parole de Dieu, cette parole précieuse, ce bon dépôt. Dans un monde, et Loïc nous l'avait rappelé, où ce qui est à la mode, c'est la méditation du vide. Eh bien, l'Église propose non pas le vide, non pas nous-mêmes comme contenu de notre méditation, mais elle propose au monde la parole objective et historique de Dieu, Jésus le Christ. Voilà le contenu de la parole nouvelle qui nous est donnée. Et lorsque l'Église n'est plus accrochée à cette parole, ou lorsqu'elle n'est plus son centre de gravité, alors l'Église est réduite à une institution qui devient conforme à n'importe quelle institution du monde. Qu'il n'en soit pas le cas pour nous, que la parole reste au cœur de notre foi et de notre piété. Amen. Seigneur, tu nous connais ce matin. J'ai à cœur de prier pour nous, pour ceux qui sont peut-être stoppés par une épreuve, une difficulté. Et puis j'ai à cœur de vous demander si vous avez besoin de prière, de ne pas hésiter à le manifester. Si ce matin la prédication vous appelle à vous lever, ce n'est pas facile tout seul. Peut-être vous avez besoin du soutien d'un frère, d'une sœur. Ne restez pas seul. Nous voulons prier pour ceux qui sont à terre par le découragement, par l'épreuve de la maladie, l'épreuve du deuil ou quelque épreuve que ce soit. Nous voulons encore vous confier à la grâce de Dieu ce matin. Nous voulons ensemble nous remettre à cette grâce qui relève et qui révèle l'amour du Père. Seigneur, c'est possible, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Non pas à ton Église, mais à toi seul donne gloire. Que chacune de ces vies soit visitée ce matin, Seigneur. Que la puissance de l'Esprit qui reposait sur Josué et que tu as pleinement déposé en Christ et qui est accessible aujourd'hui, que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, qu'il rende ce ministère, qu'il nous relève de l'intérieur et qu'il nous pousse vers la vie, vers la proclamation de qui tu es, vers la proclamation de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.